Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris. Une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès. Vendredi 19 avril avait lieu à Alès un atelier constituant autour du RIC. Il s'agissait donc d'écrire les articles de constitution qui instaureraient ce RIC ou ce référendum d'initiative citoyenne. Cette mesure qui est réclamée par les Gilets jaunes et qui est, selon notre invité Étienne Chouard, non pas une revendication parmi d'autres, mais la bombe qui permettrait d'établir le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Donc, du coup, on va commencer par des questions très simples. Hein. C'est quoi le RIC? Donc, référendum d'initiative citoyenne. Je peux commencer par juste une petite intro que j'avais donnée dans le communiqué de presse. Donc, le RIC, il est organisé à l'initiative d'une partie des citoyens. Il peut aussi être appelé le RIP, référendum d'initiative populaire. Et il y en a de plusieurs types. Alors, il y a le législatif qui sert à l'adoption d'un texte, à l'adoption d'une loi. Législatif, comme son nom l'indique, ça concerne la loi, donc à l'adoption d'une loi, d'un décret, d'un règlement. Il y a le RIC abrogatif, qui sert à l'annulation d'un texte de loi. Abrogatif. Il y a le RIC constituant, qui sert à la modification de la Constitution. Il y a le RIC révocatoire, qui sert à la destitution d'un membre d'une institution. Tu m'interromps hein, si je me trompe, hein, Tristan. Ou encore ratificatoire, donc qui permet de soit ratifier ou dénoncer un traité, un pacte, un accord international. Autant dire que celui-là, on va en avoir besoin, les amis. Et suspensif ou de veto, qui sert à l'annulation d'une loi avant son entrée en vigueur. Enfin, vous voyez déjà, on arrive dans un monde assez complexe, hein, comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de choses. Et enfin, le RIC convocatoire, qui sert à convoquer une assemblée tirée au sort, un collège d'experts, ce genre de choses. Voilà. Donc, lorsqu'il est dit en toute matière, le RIC en toute matière, qui est prôné par les gilets jaunes, qui sont là, merci d'être là, hein, d'ailleurs, avec vos gilets, super, parce qu'on a bien compris que c'est grâce aussi, particulièrement aux gilets jaunes, hein, que le RIC est monté en puissance et qui a été revendiqué. Hein, donc merci à ce mouvement spontané de citoyens qui a fait monter ça. Et donc quand il est dit en toute matière, le RIC, ça veut dire qu'il peut porter sur tout ce que je viens de citer, d'accord ? Il peut être législatif, abrogatif, constituant, révocatoire, ratificatoire, suspensif ou de veto, ou convocatoire. Voilà. Bon, voilà pour l'intro, moi je vais m'arrêter là et puis je vais vous passer la parole. Étienne, tu veux compléter peut-être pour nous dire ce qui te paraît peut-être important pour présenter le RIC que je n'ai pas dit ?
Oui, une chose importante à dire pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RIC, c'est que ce que nous appelons, ce qu'on nous fait appeler le suffrage universel est extrêmement insuffisant en fait. Suffrage, ça veut dire que nous donnons notre avis, et universel, ça veut dire que ce sont les hommes et les femmes. Mais suffrage universel, donner notre avis, ça pourrait être loi par loi. Un vrai suffrage universel, de mon point de vue, ça devrait être les citoyens qui décident loi après loi ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Mais les élus en ont décidé autrement, puisque c'est eux qui ont écrit la Constitution, il y a 200 ans, vers la Révolution française. Et puis ensuite, ils ont décidé que le peuple devrait se contenter de désigner les gens qui vont tout décider à leur place. Et donc, ils ont décidé que nous n'allions pas décider. Et donc, ils ont décidé que nous allions élire. Et c'est ça qu'on allait appeler le suffrage universel. Le suffrage universel, ça va être désigner des gens qui vont tout décider à la place de ceux qui ont élu. Donc, nous sommes des électeurs, c'est-à-dire qu'en fait, on est comme des enfants politiques qui n'avons pas la possibilité de décider nous-mêmes de notre destin. On doit s'en remettre à des gens qui sont quoi ? Des êtres supérieurs qui sont au-dessus de nous. Et donc, la plupart des votes qu'on nous appelle à faire, la plupart des occasions d'exercer le suffrage universel, ça consiste à élire, donc à ne pas voter, à ne pas décider. Il y a quand même dans les institutions une possibilité de décider qui s'appelle le référendum. Quand on vote pour un référendum, on décide. On exerce la souveraineté. En fait, on est là à des moments de démocratie. Mais là aussi, comme le suffrage universel dont je parlais est un faux suffrage universel parce qu'il est réduit à désigner des maîtres au lieu de décider nous-mêmes des sujets, là aussi, le référendum est réduit
à sa plus faible dimension.
À une procédure très infantilisante, puisque nous n'avons pas l'initiative. Donc, dans le référendum d'initiative populaire, il y a deux choses importantes. Un, c'est un référendum, donc nous votons pour décider. Et deux, nous choisissons les sujets. C'est tout à fait décisif. C'est absolument révolutionnaire. Vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas pas d'emblée, il va falloir des exercices de pensée pour vous mettre dans la situation où vous disposeriez d'un vrai référendum d'initiative populaire, avec en plus des médias dont vous avez repris le contrôle, parce que vous allez voir que quand on réfléchit au référendum d'initiative populaire, la réflexion sur les médias vient juste en même temps, il ne faut pas une heure. En moins d'une heure, tout de suite vous percutez sur le fait que si nous avons, comme aujourd'hui, tous les journaux du pays qui sont achetés par 9 milliardaires, ces gens-là se sont donné les moyens de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos propres intérêts. À voter nous-mêmes contre nos propres intérêts parce qu'on croit que, je sais pas, l'Europe c'est la paix par exemple et qu'on va mourir si on sort de l'Europe. Ils sont capables de nous persuader de ça parce qu'ils ont pris tous les journaux. Et que tous les journaux, tous les jours, plusieurs fois par jour, on nous répète ad nauseam que vouloir sortir de l'Europe, c'est être replié sur soi-même, c'est être xénophobe, c'est être raciste, conspirationniste. Et finalement, on se met à avoir peur de ça. Bon, bref.
Et ce, pour tous les sujets. Hein. Et sur tous les sujets. On peut prendre l'immigration, on peut prendre...
Absolument. Bref, Donc, référendum d'initiative populaire, c'est un vrai. Alors là aussi, pourquoi je dis un vrai, c'est parce qu'on pourrait imaginer que ce soit les élus qui écrivent un référendum d'initiative populaire. J'ai dit l'imaginer. Si ça advient... les Bretons ont trouvé un nom, ils appellent ça un rikiki. Si ce sont les élus qui écrivent le rik, ils écriront un faux rik, un tout petit rik, un rikiki. Et en fait, si on veut un vrai rik, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Donc il ne faut pas seulement un rik ETM en toute matière, il faut sûrement, et ça les Gilets jaunes l'ont compris, c'est ça qui est formidable, moi quand je fais le tour des ronds-points, c'est magnifique, il y a des ateliers constituants partout. Parce qu'en fait, les Gilets jaunes, ils percutent à toute vitesse, ils ne sont pas seulement résistants au froid, à la pluie, et au temps, hein, au temps qui passe, ils sont aussi astucieux et ils comprennent en fait à toute vitesse. Je vous dis, il y a des ateliers constituants partout. En fait, ils ont compris que si on demande le RIC, on ne l'aura pas, que le RIC est littéralement un antidote à l'outil de dépossession politique qui est le système de domination parlementaire. Le RIC, c'est un antidote, ça va nous rendre la puissance politique qui nous manque, dont on a besoin pour défendre la justice, la paix, la solidarité. Pour l'instant, nous n'avons aucun moyen de décider quoi que ce soit. Même quand on se considère comme trahi au dernier degré, nous n'avons aucune institution.
Du coup, j'en profite pour faire un petit point sur la situation actuelle. Ouais. Il y a ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée, c'est ça, qui existe. Voilà, Pipo. Hein. Ah bah tiens, bah, dis-le dans le micro, s'il te plaît.
Non, mais il faut que vous ayez votre prison avec vous. Hein, la prison politique, très bien, voilà. Et d'ailleurs, il est épuisé depuis qu'on
c'est
en parle.
C'est l'anticonstitution, mais comme Abel Étienne, c'est-à-dire la constitution
Vous
actuelle.
L'avez aussi là-dedans, dans les pages de gauche de ce bouquin d'exercice. Vous avez donc sur les pages de gauche, vous avez l'anticonstitution. Et tous les articles, il y a un peu de place pour écrire ce qu'on n'a pas là-dedans. Là-dedans, il n'y a pas de place pour écrire. Ce n'est pas fait pour qu'on écrive ça. C'est juste fait pour les étudiants, pour l'avoir avec eux. Ils n'ont pas prévu que les Gilets jaunes allaient s'en emparer. Mais en tout cas, vous allez trouver dans votre prison politique, si vous cherchez l'article 11...
Sur justement ce RIP, référendum d'initiative partagée, là.
Ouais, mais c'est même pas partagé, c'est complètement un fake. C'est pas un référendum...
Ils nous disent partagé, mais on est d'accord que derrière les mots, il est tout autre chose.
Non, c'est pas... D'initiative partagée, ça voudrait dire que nous partageons l'initiative.
Oui, alors, réexplique-nous quelle est la situation actuelle.
Donc un référendum portant sur un objet, peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement. Donc voilà où est l'initiative. Donc l'initiative, elle est parlementaire. Le pays va bien pour parlementaire, pas pour partager, pour parlementaire. Soutenu par... D'accord. Mais soutenir, c'est pas une initiative. Soutenir, okay. C'est... Voilà.
Okay.
Soutenu par un dixième des électeurs inscrits, c'est-à-dire on est 45 millions, ça fait 4 500 000. C'est monstrueux, c'est énorme. Quoi. Il faut une énorme quantité de citoyens.
Autant dire que ça ne peut pas arriver. Donc merci de nous offrir quelque chose d'impossible, c'est sympa.
Mais quand bien même, mais c'est pas le problème. Enfin, c'est pas le principal. Le fait que ce soit difficile de réunir 4 et demi de personnes, c'est une chose. Mais le plus grave, c'est que nous n'ayons pas l'initiative.
Oui,
l'initiative est parlementaire. Bon, bah laisse tomber, quoi. Les parlementaires ne poseront jamais les questions dont ils veulent nous tenir à le cas.
Oui.
Donc il n'y a vraiment rien là-dedans pour résister. Nous n'avons aucune puissance politique. Même pas celle de désigner nos maîtres, puisque le choix de nos maîtres, c'est un faux choix. C'est un nous avons le choix entre crapula, crapule B, crapule C, où il y a peut-être, c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux valeureux là-dedans, mais qui passent jamais dans les médias et qui donc sont condamnés à perdre. Ces gens-là, ils gagneront jamais. Ils sont comme un alibi à la prison. Ils servent d'alibi. C'est vrai que c'est des gens bien, mais c'est pas eux qui décident. Et ils décideront jamais. Ils ne peuvent pas gagner s'ils passent pas dans les médias. Le mécanisme de l'élection fonctionne avec les médias. C'est pour ça qu'ils les achètent.
Voilà.
Pourquoi vous croyez que les banques achètent les journaux ? C'est pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. Et les banquiers, en général, ils aiment pas perdre de l'argent. Non, non, ils achètent les journaux pour forger l'opinion et gagner les élections.
Donc effectivement, comme tu le disais, la question qui arrive juste derrière le référendum d'initiative citoyenne, c'est vraiment la question de la liberté des médias et qu'en gros, la condition indispensable à toute démocratie, c'est vraiment des médias pluralistes, libres, indépendants. Or, on en est extrêmement, extrêmement, extrêmement loin. Quand on sait qu'aujourd'hui, toute la presse appartient à une poignée de 9 personnes, quoi, de 9 milliardaires.
C'est pas qu'on en est loin, c'est qu'on n'a même pas commencé à s'en approcher. C'est-à-dire que c'est terminé, c'est comme une impasse. Ils ont acheté tous les journaux.
Alors après, il y a quand même des tas de médias alternatifs, par exemple. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, de puissance. Après,
c'est comme la recette du pâté aux alouettes. Vous connaissez la recette du pâté aux alouettes ? Les ingrédients, c'est un cheval et une alouette. Oui, il y a un peu de pluralité, mais tellement peu que c'est juste pour rire, quoi. C'est homéopathique.
Tout à fait. Je continue du coup, juste pour faire le point. Il parle d'instaurer des référendums locaux d'initiative citoyenne dans ces fameuses mesures-là qui nous devaient nous être données. Vous avez bien entendu, référendums locaux. Donc comme disait Tristan...
On va pouvoir replacer les stops où on veut, c'est bien.
Voilà ça, on pourra choisir où est-ce qu'on met les stops et les poubelles dans notre quartier. En gros, ça va être à peu près ça. Donc voilà.
Il y a des tas de choses importantes à décider en local. Hein. La façon dont les programmes de l'école sont décidés, la façon dont les impôts sont... Oui, non, mais attends, si tu as un référendum local, il faut voir comment il est institué. Hein, mais un référendum local tel que nous l'instituons dans nos ateliers constituants, je peux vous dire que ça nous donne une puissance inouïe. Hein. En fait, les communes se libèrent quand elles se donnent le référendum. Le référendum d'initiative populaire, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est le droit de décider. C'est-à-dire que c'est la démocratie, la vraie démocratie, la vraie de vraie. À condition de l'écrire nous-mêmes. Donc c'est pas seulement en toute matière, ETM, c'est aussi écrit par nous-mêmes, EPNM. Donc si vous faites des autocollants... Vous savez, qui interpelle les gens, ils voient les acronymes, là, ils voient les abréviations, ils disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En toute matière, c'est ETM, et écrit par nous-mêmes, PNM. C'est super important que ce soit écrit par nous-mêmes. Si ce sont les élus qui l'écrivent, ils ne vont pas écrire la souveraineté du populaire, je peux vous dire. Ils écriront leur souveraineté à eux, et notre impuissance, comme d'habitude.
Alors, je vais poser une question de la part d'un mouvement là, qui est en train de se déployer en Ardèche. Eux, leur but, c'est de créer une agglomération, une communauté d'agglos citoyennes. C'est Ardèche Terre de Délivrance. Je les ai interviewés, ils sont juste passionnants, hyper motivés. Et, c'est très, très beau leur projet, c'est très beau ce qu'ils font. Et alors du coup, Cyril, qui est le porte-parole, on va dire, il m'a soumis quelques questions. Donc il me disait, le RIC est un outil de contre-pouvoir pour contrer un système politique qui ne marche pas, géré par la Constitution. Le RIC ne remet donc pas en cause les dysfonctionnements d'une Constitution qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu lui répondrais, Étienne ?
Non, c'est plus qu'un contre-pouvoir. Hein. C'est plus qu'un contre-pouvoir. C'est vrai que c'est un contre-pouvoir, mais c'est davantage. Si c'est un RIC en toute matière, parce que nous l'avons écrit nous-mêmes, on fait absolument ce qu'on veut. Donc, s'il y a quelque chose qui te déplaît dans la Constitution, tu dis « remets pas en cause les dysfonctionnements », bah, ce n'est pas le RIC qui remet en cause les dysfonctionnements, c'est ce que nous en faisons. Si nous décidons de régler les dysfonctionnements de la Constitution, bah, par RIC, on pourra. Donc, en fait, c'est un outil, le RIC. Après ça, ça dépend des humains qu'il y a derrière. Si les humains sont très dociles, très habitués à obéir, s'ils n'ont jamais exercé leur souveraineté et que finalement, ils ont peur de l'exercer et que même enforcé par un vrai RIC digne de ce nom, eh ben, ils décident de ne pas s'en servir, ben, ok, mais ce ne sera pas la faute du RIC. Ce sera la faute des gens qu'il y a derrière, qui n'auront pas su se mobiliser, qui n'auront pas su imaginer les modifications de la Constitution nécessaires pour tout changer. Mais un RIC digne de ce nom, c'est-à-dire tout simple, hein, en toute matière, et dans un cadre, un contexte où les médias ne peuvent pas être achetés par qui que ce soit. Il faut écrire mais c'est deux lignes. Hein. Aucun média ne peut être acheté par une personne physique ou morale, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est quand même, vous pouvez le dire autrement d'ailleurs. Hein. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média, quel qu'il soit. Vous pouvez le dire, puis on peut le dire encore, Marquise, vos beaux yeux d'amour, mourir me font. Enfin, on peut le dire dans tous les sens, mais ce n'est pas compliqué à dire. Hein. Aucun média ne peut être acheté, aucun. Voilà, c'est interdit. Pour l'instant, on ne nous a jamais demandé ça. Hein. C'est-à-dire que on le découvre dans les ateliers constituants. Quand vous réfléchissez, vous allez vous dire, mais comment est-ce que je peux faire pour qu'un banquier ne puisse pas acheter un média, quel qu'il soit ? Eh bien, vous l'écrivez. Bon, on peut... Voilà, là, je suis en train de faire un atelier constituant. C'est le matin, au petit déjeuner, je viens d'écouter les nouvelles. M'aperçois que le Crédit Mutuel vient d'acheter le quart des journaux, le quart sud-est des journaux de la presse quotidienne géorgienne, de la PQR. Et je l'entends aux nouvelles, mais je dis, mais c'est une connerie, aucun banquier ne peut acheter un média. Voilà, aucun, ni journal, ni radio, ni télé.
C'est très enfantin, en fait. Les enfants comprendraient ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on entend des choses qui sont aberrantes, qui nous révoltent. Bah, prenons notre papier, notre stylo et marquons quelles sont les nouvelles règles. Changeons les règles et marquons les règles qui nous conviennent. Partageons nos idées ensemble pour choisir celles qui nous vont à tous.
Voilà, donc journal, radio, je le mets entre parenthèses parce que j'ai peur qu'ils en oublient. Qu'est-ce qu'il ne peut pas acheter ? Il ne peut pas acheter non plus des télés, il ne peut pas acheter une télé, évidemment.
Il ne peut pas acheter l'eau ?
Il ne peut pas acheter... Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Moi, je pensais aux médias, donc d'accord, à tout ce qui est la formation de l'opinion. Formation de l'opinion, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme formation de l'opinion ? Alors, il ne peut pas acheter les sites Internet ? Institut de sondage ? Institut de sondage, aucun banquier peut acheter un institut de sondage, ni un institut de statistique. Mm-hmm. L'INSEE, c'est pareil, hein. Il ne s'agirait pas que ça passe dans les pattes des riches, un institut de statistique. Et peut-être même une école. Hein. Les écoles aussi, ça fait partie de la formation d'opinion. Aucune école, c'est interdit, les banquiers ne peuvent pas acheter les écoles. Bon, ok, point de suspension, de toute façon, ça se discute, peut-être que je me trompe en écrivant école, peut-être que je déconne. Hmm. Et puis quand je vais voir Tristan à midi, il va me dire « Mais pourquoi t'es con ? Pourquoi tu t'as dit banquier ?» C'est aucun... personne, voilà. Personne. Aucune personne. Aucune personne. Et des personnes physiques. Non, mais les entreprises, ça s'appelle les personnes morales. Donc aucune personne physique ou morale. Morale, ça s'appelle les personnes morales, les entreprises. Hein, en droit, c'est comme ça. Hein, mais je ne dis pas le truc. Hein. Totalement immoral, évidemment. Ils nous appellent, vous savez comment ils nous appellent, les humains, dans les personnes morales là, ils nous appellent des ressources humaines. Ils nous ont complètement transformés en objets comptables. C'est vraiment des aveux de trahison, quoi. Hein. Enfin bon, bref, je ne développe pas là-dessus.
Il y a peut-être une piste sur le moyen de financement, en fait. Le moyen de financer les médias, il y a un moyen auquel moi je pense, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire le financement par les gens. C'est les citoyens qui vont donner de l'argent et ils vont décider de combien. Du coup, si un média déconne, eh ben les gens vont arrêter de donner de l'argent. Donc, en fait, ça va encourager systématiquement ceux qui font bien leur travail, je pense. Pardon ? Eh bien justement, si les minorités... Enfin, on parle pas des idées minoritaires, en fait, justement, mais si toi, tu finances...
Je vais avoir la même idée que les médias, mais si je suis minoritaire, le média, il va fonctionner comment ?
Il a un bel organe, hein, il n'a pas besoin de micro. C'est quoi ton prénom ? Il a raison, hein. C'est quoi ton... Daniel. Il a raison, Daniel.
Moi, je sais pas s'il faut prendre le problème à la manière. Qui il faut interdire que les médias appartiennent à des banquiers. Mais quand on voit, par exemple, Parizeau qui détient une fois... C'est ça ? C'est pas un banquier, mais c'est une patronne. Donc moi, j'ai dit qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que le média doit appartenir aux gens qui sont à l'intérieur.
Voilà.
Quand je dis que c'est les gens qui financent, ça revient à dire ça. Sauf qu'en fait, tu n'as même pas besoin de travailler pour... ça devient un bien commun, en fait.
Voilà. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire depuis le début. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec l'eau, Étienne, quand tu parlais. En fait, c'est déjà peut-être en premier lieu reconnaître à quel point l'information est un bien commun. Est un bien commun. Et qu'en fait, peut-être décider de qu'est-ce qu'on fait des biens communs. Est-ce que les biens communs peuvent être achetés par des privés? Est-ce que c'est une poignée de gens qui peuvent décider de ce qu'on fait du bien commun? Il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et là, il y a une vraie réflexion à tenir autour de ça. Et effectivement, est-ce que l'information est un bien commun ou pas, Étienne?
Oui, absolument. Mais Daniel a complètement raison. En fait, c'est une des possibilités, c'est de traiter il s'agit de rendre les journalistes indépendants de toute pression qui serait contraire à l'intérêt général. Donc indépendants des riches, donc en empêchant les riches d'acheter, et puis indépendants des pouvoirs aussi, indépendants du gouvernement, indépendants du Parlement, indépendants des juges, indépendants de ceux qu'il a à surveiller, de ceux qu'il a à observer. Et une bonne solution, c'est effectivement de rendre dans les institutions, d'obliger à ce que le média appartienne comme une SCOP, appartienne à ses travailleurs, pas seulement les journalistes d'ailleurs, tous ses employés. D'ailleurs, je vais vous lire, vous allez voir, c'est très court, hein, je vais vous lire l'article 11, parce que sur la page de gauche dans ce petit bouquin, vous avez l'anticonstitution, la prison, et puis sur les pages de droite, vous avez la constitution d'origine citoyenne qu'on écrit depuis 15 ans sur mon blog, donc c'est un truc collectif en fait, hein, c'est un chantier, hein. Pas du tout, c'est pas impératif, c'est juste pour vous donner des idées, et puis après ça, vous allez en ajouter plein, vous allez en ajouter, corriger. Et donc, voilà ce qui est écrit là-dedans, sur quelle proposition, un début de réflexion sur les journalistes. Donc c'est dans l'article sur le RIC. Hein. Donc,
d'accord.
Juste après avoir dit comment est organisé le RIC, on dit aussi « L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances, et dans ce but, tous les médias du pays... journaux, radio, télé, agences de presse, l'AFP, là, c'est privé, hein. Mmh. Agences de presse, ça ne devrait pas être privé, hein. Mmh. Agences de presse, instituts de sondage et de statistiques doivent appartenir, donc les statistiques aussi, ça ne doit pas être sous le contrôle du gouvernement, hein. L'INSEE, ça doit pas être, pour l'instant, c'est sous le contrôle du gouvernement, ça leur permet de truander les chiffres du chômage comme ils veulent, ça ne devrait pas être sous le contrôle du gouvernement, là, l'INSEE.
Hein.
Donc, les statistiques doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Donc quand une personne est engagée, elle devient copropriétaire, co-décideuse dans le journal, et puis quand elle en part, elle perd cette fonction. Autrement dit, donc, aucune personne, physique ou morale, ne peut acheter un média quel qu'il soit. À la ligne, les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés. Enfin, si vous voulez que les choses changent, il faut que vous écriviez ce qui doit changer et que vous alliez. Il y a des gens à qui il va falloir tordre le bras. C'est comme ça qu'on dit au Canada, au Québec. Donc, il faut les forcer. La Chambre des médias, tirée au sort, veille à l'application de ces règles et au juste dédommagement qui s'impose. Bon, parce qu'on n'est pas obligé de les voler, quoi, hein, on peut les payer. De toute façon, vous allez voir, dans d'autres articles, nous reprenons la création monétaire. Et comme on reprend la création monétaire, on est pété de thunes et on peut payer ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Enfin, l'État, au lieu d'être ruiné, a été réenforcé sur le plan monétaire. Et nous pouvons payer ce qu'il faut pour nous réapproprier les médias. Mais il y aurait une autre possibilité sur les médias. Plutôt que de dire les médias sont des scopes, c'est l'idée de Daniel, qui est tout à fait, à mon avis, une bonne idée. Il y a une autre possibilité que vous pouvez discuter, vous, dans vos ateliers constituants, et qui consisterait, donc c'est une autre possibilité, qui consisterait à, puisqu'il s'agit de rendre les journalistes indépendants, de faire comme on fait avec les juges, et en mieux, comme d'ailleurs il faudrait faire mieux avec les juges aussi. Mais les juges, on a le même problème, il faut qu'ils soient indépendants, qu'ils servent le bien commun, mais qu'ils soient indépendants de toute pression. Comment on fait? Il n'est pas question qu'on laisse les riches acheter les juges, donc on décide, nous, les citoyens, de payer, nous, les juges. Et donc les juges, en fait, quand un jeune homme ou une jeune femme arrive à sa majorité, elle décide de faire ses études de droit pour devenir juge, on lui paye ses études. Et puis, donc on la forme. Et puis ensuite, on va, une fois qu'elle a passé le diplôme, ça y est, elle a tout ce qu'il faut, cette personne a tout ce qu'il faut pour devenir juge, eh ben, c'est nous qui la payons et qui la protégeons et qui interdisons à l'État d'aller mettre son nez dans ses affaires. Le juge d'instruction, il est vachement protégé. On ne peut pas aller, l'État, le Parlement, les autres pouvoirs ne peuvent pas aller mettre leur nez dans les affaires du juge.
Alors, ils tiennent une question.
Et donc, on pourrait faire la même chose avec les journalistes. On pourrait dire, les journalistes, c'est nous qui les payons, c'est nous qui les formons, et c'est nous qui les rendons indépendants. Alors, les juges ne sont pas bien indépendants, donc il faudrait l'améliorer, ça. Dans d'autres articles, d'ailleurs, il faudrait. Mais c'est tout à fait possible. Si c'est nous qui l'écrivons, on va les rendre indépendants. C'est une autre façon de faire.
Il y a vraiment un travail de déconstruction mentale que même moi, là, j'ai du mal à faire, parce que quand tu dis c'est nous qui formons les juges, qui les payons, etc., ça veut bien dire qu'il va y avoir un organisme,
Comme il y a une école nationale de la magistrature, il y aurait une école nationale du journalisme.
Voilà, et puis une institution qui va être chargée de récolter les fonds auprès des citoyens, etc. Bah, tu dis on va les payer, etc. Et
on va les payer avec
c'est nous
avec
qui allons
l'impôt.
Les payer.
Oui, avec l'impôt.
Avec l'impôt de l'État.
Oui,
on est d'accord.
Oui, oui.
Donc, du coup,
Comment on paye les juges?
Ouais. C'est l'articulation en fait entre, parce que du coup quelque part ça passe par l'État. C'est là où j'ai du mal à voir.
Mais regarde, le juge d'instruction, il est payé par l'État. Et l'État n'a pas le droit d'aller mettre son nez dans ses affaires. Parce que l'État est institué de telle manière qu'il doit payer.
Oui, d'accord.
Et il n'a pas le droit d'aller dire comment juger.
D'accord, ok.
Il faut faire pareil avec les journalistes.
Simplement mettre une règle, un garde-fou, quoi.
Ouais. Je ne sais pas, on n'aura pas le temps de parler de monnaie, mais je peux juste ouvrir une parenthèse d'une minute. Pour l'instant, nous imaginons l'État d'une façon délirante. Hein. Pour l'instant, nous imaginons que l'État ne peut pas créer la monnaie. Nous acceptons cette idée dingue que l'État ne peut pas créer la monnaie, qu'il doit prélever de la monnaie sur la société. Il doit prélever de la monnaie par les impôts. Donc il doit prendre, c'est comme ça qu'on l'imagine, c'est absurde, hein. Il doit prendre 100 d'impôts pour pouvoir ensuite dépenser 100 de services publics en écoles, en tribunaux, etc., en hôpitaux, en EHPAD, etc., etc.
Tout ça parce que l'État s'est dépossédé de capacité de créer
la monnaie
et l'a laissé au privé,
et
à des banques.
Et donc, s'il n'arrive pas à collecter parce que l'activité périclite pour d'autres raisons, par exemple le libre-échange ou autres bêtises économiques qu'on aurait faites, l'activité périclite, donc il y a moins de création de richesses, donc on n'arrive plus à prendre assez d'impôts. Et donc, si au lieu de 100, on n'arrive plus à prendre que 90, puis 80, dans cette conception, dans ce paradigme monétaire, l'État n'est plus capable que de faire 90 de services publics, puis 80, donc de moins en moins de services publics. C'est complètement idiot. Alors qu'il y a un autre paradigme monétaire, il y a une autre façon de penser la monnaie qui consiste à dire, et c'est à nous de le dire, jamais les élus avec l'argent des banques ne feront ce que je vous dis. Il suffit de dire, c'est plus les banques privées qui créent la monnaie, c'est l'État qui, quand il dépense, crée les billets, mais vous savez que ce n'est pas que des billets. En fait, le plus gros de la monnaie, c'est des écritures sur des comptes. Donc, il y a même plus. Mais prenez l'idée des billets pour comprendre. Imaginez qu'on n'ait que des billets. L'État crée les billets qui sont nécessaires pour payer le médecin, payer l'infirmière, payer
la transition écologique
et payer les médias, etc. L'État crée les billets et puis pour donner du boulot aux chômeurs. Ce jeune homme ou cette jeune femme qui voudrait bien être prof, c'est son rêve d'être prof, mais il n'y a plus d'argent pour les profs. Il n'y a plus d'argent, c'est une blague. L'État peut très bien créer la monnaie pour payer le prof et vous avez la création, vous avez deux choses qui augmentent. Vous avez les richesses créées par le gars que vous avez mis au boulot et puis l'argent que vous avez créé pour le payer. Et là, ce n'est pas inflationniste du tout. On va vous dire, vous savez, la rengaine, c'est de vous dire, si vous créez de la monnaie, et c'est vrai que si on crée de la monnaie sans créer la richesse, on crée trop de monnaie par rapport à la richesse, ça crée une rareté des objets par rapport au pouvoir d'achat. Vous avez distribué du pouvoir d'achat sans créer les richesses en face.
Ouais.
Et là, c'est vrai que
ça
fait monter les prix. Ça fait de l'inflation. Mais si vous vous servez de la création monétaire, donc créer la monnaie, pour donner du boulot à ceux qui n'ont pas de boulot, pour l'instant, ils ne créent pas de richesse. C'est une dinguerie.
Et oui.
Ils ne créent pas de richesse. Si au lieu de ça, vous vous servez de la création monétaire pour donner du boulot à tous ceux qui sont là à crever, à manquer de tout, alors qu'ils voudraient travailler, vous créez la richesse en même temps que la monnaie, ça n'est pas inflationniste, et vous venez à bout du chômage. Et vous donnez à la société beaucoup plus de signes monétaires qui vont permettre cette prospérité qui était en train de disparaître. Et à ce moment-là, vous donnez donc l'État crée la monnaie quand c'est à nous de l'instituer. Hein. Nous décidons que l'État crée la monnaie quand il dépense. Cette monnaie circule comme aujourd'hui entre les agents qui éteignent leurs dettes progressivement. Donc l'instituteur à qui j'ai donné des euros va s'en servir pour payer son boulanger. L'argent reçu par le boulanger va lui servir à payer son plombier. L'argent reçu par le plombier va servir au plombier à payer le menuisier, etc. Enfin, les gens se servent de ces signes monétaires pour éteindre leurs dettes comme aujourd'hui. Hein, ça marche comme aujourd'hui. Et puis, comme il y a beaucoup plus de monnaie, plus de revenus, on peut prélever. Quand on prélève l'impôt, on détruit la monnaie. Mais donc si aujourd'hui, je prélève 100 d'impôts, je dépense 100 de services publics, On change de paradigme, on dit maintenant, à partir de maintenant, quand l'État dépense, il dépense 100 de services publics, ça circule, il prélève 100 d'impôts, ça n'a pas changé, sauf que si l'État s'aperçoit qu'il y a du chômage, eh bien, il dit, ben, je vais créer pas 100, mais je vais créer 200, parce que je vais mettre tout le monde au boulot, et puis je vais prélever 200, détruire 200. Mais vous avez tout changé. Mais il n'y a que nous pour faire ça. Nous sommes, si nous attendons que les élus, élus par les médias, hein, s'il n'y a pas les médias, il n'est pas élu. Hein, donc les médias, ils ont tous été achetés par les banques. Donc les élus, c'est comme des serviteurs des banques. Qu'ils le sachent ou non, la majorité, hein, je ne parle pas de la minorité, mais ceux qui décident, les élus de la majorité, ils doivent tout à des médias qui appartiennent à des banques. Ces gens-là n'écriront jamais ce que je viens de vous dire. L'institution de la souveraineté monétaire, commune par commune, hein, c'est valable au niveau de l'État, mais c'est valable aussi au niveau de la commune. Nous pourrions très bien écrire dans les ateliers constituants la puissance monétaire de la commune, qui nous pourrions dire dans la Constitution, une commune doit, c'est pas qu'elle peut, elle doit créer une monnaie locale qui n'est pas convertible avec la monnaie nationale, qui va rester locale, donc elle ne peut pas foutre le camp, ça ne sert à rien qu'elle foute le camp, elle n'a pas de valeur à l'extérieur. Elle sert à relocaliser les activités. Le maire peut payer des artisans, il peut payer l'instituteur, il peut payer le garde champêtre, il peut payer les services publics avec cette monnaie locale qu'il crée, en partie. Et cette monnaie locale circule, et quand il prélève l'impôt, et il dit bien sûr, le maire doit dire, et on l'écrit comme ça, il doit dire que cette monnaie qu'il a créée pour payer les services publics, il l'accepte bien sûr en impôts. Et donc on peut très bien organiser une espèce de résilience, donc de résistance aux crises, dans chacune des 36 000 communes. On peut très bien faire ça. Et si c'est des toutes petites communes à 500 personnes, et bien sûr, on va les laisser s'organiser entre elles, mais pas comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de regrouper les communes, ils regroupent des grandes communes de force pour en faire des agglomérations, c'est-à-dire des entités politiques beaucoup trop grandes pour qu'elles soient démocratiques. C'est une bonne idée de regrouper quelques toutes petites communes pour arriver, il faudrait arriver à quelque chose comme 10 000. La bonne unité politique, c'est la même que celle à Athènes il y a 2500 ans. Vous avez 10 000 personnes, vous avez une bonne entité politique, un bon niveau. Et à ce niveau-là, vous pouvez très bien dire commune de 10 000 par commune de 10 000 ou quartier de 10 000 par... Oh, 10 000 en gros, ça peut être 20 000, on s'en fout. En fait, c'est l'ordre de grandeur. On donne à la puissance publique cette force de création monétaire qui la rend... N'oubliez pas cette expression, parce que c'est elle qui est décisive pour qu'on puisse ensuite se passer le mot et que les gens comprennent. Parce que si on devient très nombreux à comprendre ça, on va finir par le vouloir. Et quand on va très nombreux à le vouloir, on va l'avoir. Et on n'aura pas besoin de le demander aux élus. Les élus, on va les dégager. Je ne sais pas encore comment. Je ne suis pas un prophète. Je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais l'histoire de l'humanité, c'est de se révolter, de protester, de se débarrasser des pouvoirs. Donc ça va arriver.
My people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has won. My brothers and sisters, come on and sing another call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has come. Mozambique, a luta continua. A luta continua, continua, sing everybody. Mozambique, a luta continua, a luta continua, continua. Mozambique, a luta continua, a luta continua, continua. A luta continua, a luta continua, continua. Oh, Mozambique,
à lutte continue, à lutte continue, continue.
La grande chanteuse Myriam Makeba chantait « Aluta continua », c'était en 81, et la lutte continue. Aujourd'hui, c'est Étienne Chouard qui est avec nous pour parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, qui permettrait que le peuple devienne enfin souverain.
Quand on fait des ateliers constituants, on se prépare au monde d'après. Et donc, on se prépare notamment à l'autonomie monétaire des communes et de la nation. Et le mot qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous instituez, quand vous donnez à une puissance publique la puissance de création monétaire quand il dépense et de destruction monétaire quand il reçoit les impôts, vous rendez la puissance publique capable d'être employeur en dernier ressort. Ce qu'il ne peut pas être aujourd'hui, il n'a pas l'argent. L'employeur aujourd'hui ne peut pas donner du boulot à ceux qui n'en ont pas puisqu'il n'a pas l'argent. Alors que si vous avez donné le pouvoir de créer l'argent à la puissance publique, vous la rendez capable de donner du boulot à tout le monde. Or aujourd'hui, ceux qui décident de donner du boulot ou pas donner du boulot, c'est des gens qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de boulot. Parce que quand il y a du chômage, ça fait des gens dociles qui ont peur de perdre leur boulot. Qui ont peur. Et quand il y a du chômage, tu as peur de perdre ton boulot. Donc tu ne demandes pas d'augmentation de salaire. Tu acceptes même les baisses de salaire. Tu acceptes le fait que tu fasses des heures supplémentaires et que ce ne soit pas payé. C'est le chômage qui est comme un fouet. Le chômage, c'est un fouet. Le chômage, c'est une construction politique. Le chômage, il est voulu. Mais Chouard, vous êtes un conspirationniste, vous êtes un complotiste, ne seriez-vous pas un dangereux populiste? Oui, je suis un populiste, comme le pianiste occupe de son piano, je m'occupe du peuple. Oui, je suis populiste, et c'est pas une insulte. Mais le chômage est voulu. Vous n'avez pas des preuves? Prouvez-le. J'ai les preuves, je les ai les preuves. L'OCDE, c'est un organisme économique très réputé. Ce n'est pas du tout les anarchistes. Hein. C'est le néolibéralisme en marche. Hein. Le néolibéralisme en marche. Hein. Donc, c'est vraiment un outil d'oppression, l'OCDE. Et l'OCDE calcule un taux de chômage minimum.
Minimum.
Minimum. En France, au Japon, c'est 1%. Parce qu'ils sont dociles, ils sont très disciplinés. Et très disciplinés comme ça, il n'y a pas besoin de fouet.
Ils vont bosser.
Voilà. Ils vont bosser jusqu'à leur mort, il n'y a pas de retraite. Et donc, ils sont disciplinés, il n'y a pas besoin de leur mettre un fouet. Donc, eux, le NERU, N-A-I-R-U, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation, le NERU au Japon, c'est 1%. Et nous, comme on a des emmerdeurs, des Gaulois, on fait chier, on n'arrête pas de faire des manifs, on n'arrête pas de casser les pieds aux patrons pour demander des bons salaires. Eh bien, on nous met un fouet à 9%. Eh, ils nous racontent, à chaque élection, ils nous racontent « Notre programme, c'est de lutter contre le chômage. Et il faut que vous acceptiez cette grande surface parce que ça crée des emplois. » C'est des menteurs. L'élection porte au pouvoir les pires menteurs, ceux qui mentent le mieux. L'élection donne le pouvoir à ceux qui mentent le mieux. Donc, vous avez des artistes. Macron, c'est un artiste de ce point de vue. C'est un des meilleurs menteurs du pays. Il ne faut pas le croire quand il vous parle du chômage. Le chômage est une construction politique. Et quand, dans les ateliers constituants, vous décidez de donner la puissance monétaire à la puissance politique nationale et la puissance politique locale pour qu'ils soient, et avec la mission, et vous l'écrivez, qu'ils donnent du boulot à tous ceux qui en veulent, vous allez venir à bout du chômage, et ce n'est pas un tour de magie, pas du tout, c'est simplement qu'enfin, c'est vous qui êtes souverain, c'est vous qui avez écrit, et vous-même, il ne faut pas que vous attendiez que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, il faut que vous fassiez des ateliers constituants. C'est vous-même qui avez écrit la puissance populaire dont vous avez besoin pour imposer une puissance politique qui vienne à bout du chômage. Pour l'instant, nous laissons les riches faire élire leurs créatures depuis 200 ans, ça fait une plutocratie l'élection. Il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Il faut tirer au sort l'Assemblée constituante. Il faut que ce soit des gens comme nous, comme n'importe qui écrit.
Étienne, merci de nous rappeler tout ça. Effectivement, intéressant de s'entraîner à écrire les règles de pouvoir, à essayer de comprendre, déjà de s'informer énormément, de comprendre et puis d'inventer de nouvelles règles. Par contre, et là, c'est la question de la stratégie, c'est-à-dire que comment on peut imaginer que les élus en place ou à un moment donné vont adhérer au fait que ce soit le peuple qui...
Non, pas besoin des élus. Ils seront pas d'accord, oui.
Bah oui, c'est sûr qu'ils seront pas d'accord. Alors c'est la stratégie de la lutte, là, dont je te pose la question quelle stratégie.
Mais ils se laisseront pas faire, évidemment.
C'est sûr qu'ils se laisseront pas faire.
Mais évidemment, ils nous oppriment littéralement. Ils sont en train de détruire la sécu. Ils sont en train de vendre tous les biens publics. Ça fait 30 ans qu'ils privatisent.
30 ans qu'ils privatisent, ça veut dire qu'ils donnent les communs à leurs copains. Ça fait 30 ans que ça dure. Ils vont pas nous émanciper. Hein. Vous pouvez leur demander le RIC, ils vous le donneront jamais.
Alors, quelle stratégie tu imagines pour qu'à un moment donné, le peuple recouvre son pouvoir, justement ? C'est ça la question. Parce que, OK, faire des ateliers, c'est une chose. Écrire, parce qu'il y en a déjà plein qui se font. Plein de gens qui ont déjà écrit. On peut parler de Tristan, qui est là, et qui a créé... Attends, juste, je présente Tristan. Donc, qui a créé le site internet j'écrislaconstitution.fr pour que chacun puisse, justement, participer à la rédaction de la Constitution en ligne. Donc, c'est un site internet où tout le monde peut collaborer à la rédaction de la Constitution. Donc il y a déjà des choses qui se font. À un moment donné, comment on fait pour que ça devienne réalité ? Voilà. C'est une question nombre, selon toi. C'est une question de nombre et de seuil.
De nombre et de polarité. Parce qu'en fait, quand nous sommes nombreux, si nous sommes dispersés, le nombre est une faiblesse. S'il y en a qui se bagarrent, nous sommes très nombreux. Mais s'il y en a un cinquième qui se bagarre sur les questions écologiques, un autre cinquième qui se bagarre sur les questions financières, les marchés financiers, la création monétaire, il y en a encore un cinquième qui se bagarre sur le front syndical et l'injustice dans l'entreprise, etc. En fait, vous voyez, on est complètement dispersés sur les conséquences de notre impuissance politique. Au lieu de nous concentrer, de nous polariser sur... Il faut trouver une cause commune. Au lieu de nous concentrer sur une cause commune, nous nous dispersons. Et ça fait du nombre une faiblesse. Mmh.
Donc là, il est vraiment question de convergence.
Non, mais absolument.
Comment on met en place cette convergence ? C'est vraiment une grande, grande, grande question. Je vois les gilets jaunes qui hochent la tête.
Ce bouquin, je l'ai appelé « Notre cause commune ». Et je pense à toute l'humanité. Je ne pense pas qu'à la France. Et je ne pense pas aux gens de gauche, de droite. Je pense à tous les êtres humains. Et tous les peuples de la Terre. « Notre cause commune ». Je suggère, je propose cette idée que c'est instituer nous-mêmes la puissance politique dont on a besoin. Dont on a besoin pour enfin régler les problèmes. Les problèmes sont tous identifiés. Tous les militants que je connais connaissent parfaitement les problèmes. Ils se sont spécialisés, ils connaissent très bien les problèmes écologiques, ils connaissent très bien les solutions écologiques. Il y a les solutions, mais c'est pas des problèmes s'il y a des solutions. Eh si, c'est des problèmes parce que nous avons un problème, c'est que nous sommes impuissants politiquement. Donc c'est idiot de ne pas s'occuper de ça. C'est complètement idiot de ne pas nous occuper d'instituer notre puissance. Parce que tant qu'on ne s'occupe pas d'instituer notre puissance, tant qu'on est impuissant politiquement, tant qu'on est dans cette fichue prison, mais nos discussions, c'est des bavardages. Quoi.
Stériles,
on bavardouille, on discutaille. On perd son temps, c'est pas nous qui décidons. Vous comprenez ça ? C'est pas nous qui décidons. On discutaille pour rien.
Voilà.
Pour rien. Donc, l'idée, quoi. Mais bon, c'est peut-être une idée à la con, hein. C'est à vous de décider ça. Mais je suggère que si on met la charrue après les bœufs, si on commence par les bœufs, si on commence par le commencement, on arrête de se disputer, de se disputailler sur est-ce qu'il faut faire une politique de gauche, est-ce qu'il faut faire une politique de droite, est-ce qu'il faut faire une politique du centre, est-ce qu'il faut faire... Putain, les mecs, vous êtes impuissants. Arrêtez de vous disputer. Tombez d'accord au moins sur le fait que... Il faut que le peuple ait la puissance de décider, donc il faut écrire la Constitution, tomber d'accord là-dessus. Ok, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que vous ne voulez pas le même type de société. Je sais ça. Mais pour l'instant, vous êtes en désaccord, mais ce qui fait votre unité, c'est que vous décidez de rien. Mmh. Donc, comprenez ce truc-là. Arrêtez de vous disputer le temps de monter au niveau constituant et d'écrire, d'apprendre à écrire et vouloir ensemble. En 2005, quand on a gagné, vous savez qu'en 2005, on a gagné. Ils nous ont marché dessus ensuite, mais on a gagné. C'est-à-dire qu'on a réussi à dire non alors que tous les médias nous appelaient à voter oui. Mais le nom,
pour
la Constitution européenne. Enfin, l'anti-constitution. C'est les noms de gauche et les noms de droite qui se sont additionnés qui ont permis de gagner. S'il n'y avait eu que les noms de droite, ils n'auraient pas gagné. S'il y avait eu les noms de gauche, ils n'auraient pas gagné. C'est le peuple unique qui est invincible. Le peuple désuni, séparé gauche-droite, il va perdre. Mais bon sang, comment on fait concrètement, de façon pratico-pratique, pour que ça change vraiment ? Sachant que les élus ne voudront jamais. Les gouvernements, ils préfèrent nous tirer dessus à tir tendu, nous gazer littéralement comme des animaux. Et les juges nous condamnaient, nous envoyaient en prison sur ordre de l'exécutif. Ok, on a contre nous tout le système de domination. Comment on fait ? Dans toutes les révolutions que je connais, ce qui est décisif et qui fait que ça devient une révolution et qu'il y a un changement de régime, c'est-à-dire que les gens qui étaient dominants, qui sont comme nous, ils sont bâtis comme nous, ils sont pas épais, ils sont pas super puissants, ils ont une armée avec eux qui les rend puissants, ils ont une police avec eux qui les rend puissants. À chaque fois que la révolution fonctionne, c'est quand l'armée, ouais, d'abord, et la police ensuite, passent du côté du peuple. Mais l'armée et la police, une fois qu'elle passe du côté du peuple, c'est Macron, il va s'en aller, parce qu'il n'y a que la police qui l'empêche, et que l'armée qui lui permet de nous martyriser. Mais qu'est-ce qui fait que la police ou l'armée change de camp ? C'est quand l'armée et la police sentent que c'est le moment. Il y a tellement de monde d'accord pour que ça change, que c'est évident pour l'armée, parce que l'armée, elle est nourrie par le sens commun, le service public.
Le service à la majorité, quoi.
Mais oui, ouais. Enfin, je ne dis pas ça de toutes les polices du monde ou de toutes les armées du monde, mais je suis sûr que l'armée française, la police française et les armées européennes, les polices européennes, peut-être que je me trompe sur certains exemples, mais globalement, c'est des gens qui sont pétris de l'idée de servir l'intérêt général. Ils assurent l'ordre pour défendre les faibles, quoi. Hein. Et donc ces gens-là, tant que nous sommes une poignée... Mais ils sont légitimes à nous empêcher de tout renverser. Bah, c'est leur boulot. C'est leur boulot qu'une poignée de personnes, une poignée, ne renverse pas. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'une poignée. Ce que je dis, c'est que tout est prêt pour que nous soyons des légions. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Tous les référendums depuis 40 ans disent, quand on demande aux gens, tous les sondages, quand on demande aux gens... Est-ce que vous voulez le référendum d'initiative populaire ? Ils disent tous, à 80, 90%, ils disent oui, ça on le veut. Donc ça, c'est comme une forêt qui est très sèche, qui demande qu'à s'embraser. L'idée demande qu'à se répandre, là. Mais simplement, ils n'y croient pas, parce que, ben oui, normalement, on ne fait que élire, et on s'est habitué à l'idée que les gens qu'on élit nous trahissent depuis la nuit des temps, et donc, on désespère. Et donc, oui, on voudrait le référendum d'initiative populaire, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas, mais on voudrait. Donc ça, à mon avis, c'est un ferment magnifique. Magnifique parce que les Gilets jaunes qui enfin sont sortis de chez eux, mais le monde entier regarde ça en disant « mais il y a un truc qui se passe là ». Ils sont sortis de chez eux. C'est magnifique. Ils se retrouvent sur les lieux publics, pacifiquement. Ils refont société sur des lieux publics. Et donc, ils fraternisent, en fait. Ils redécouvrent la fraternité. Moi, ce que je vois sur les ronds-points, c'est enthousiasmant. Ils fabriquent des baraques. Quand on leur rase les baraques, ils les reconstruisent. Ils se font la popote. Ils sont contents. Ils sont allés passer le Noël là-bas. Ils sont allés passer le jour de l'an là-bas. Avec leur famille. Ils sont allés tous ensemble. Donc, ils font société. Ils font vachement attention à ce qui n'est pas leur drapeau de gauche et de droite. Syndicat A, syndicat B, syndicat C, pas du tout, ils veulent pas qu'on voit les drapeaux, parce qu'ils veulent qu'on soit juste des humains révoltés qui veulent changer les trucs. Ils font vachement attention à être unis. Non mais ça c'est un ferment magnifique, c'est un point de départ inespéré. Et ils ont fait des doléances, ils ont rédigé une liste de 40 lois, on voudrait plus de salaire, on voudrait moins d'impôts, donc ils ont... habitués à être soumis à des maîtres qui décident tout à leur place, ils se sont tournés, donc ils ont écrit, en imaginant qu'ils allaient se tourner vers leur maître en disant « Donnez-nous au moins 1300 de SMIC, quoi. On crève avec 1000, ça suffit, quoi. Augmentez le SMIC, et puis diminuez les impôts. Vous nous obligez à aller travailler en payant de l'essence. L'essence est trop chère, on n'arrive même pas. Tout notre salaire part en essence alors qu'on n'arrive plus à nourrir nos enfants. » Donc ils réclament des lois, de meilleures lois. Mais au milieu de leurs réclamations, il y a un truc incendiaire pour le système de domination parlementaire. C'est une bombe, c'est un truc qui va détruire le système de domination parlementaire, qui s'appelle le référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Ne vous empaillez pas là-dessus, on s'en fout. Référendum d'initiative populaire. Et ça, c'est au milieu de la liste. Mais ça, c'est pas une loi. C'est une façon d'écrire les lois. Et une façon d'écrire les lois dans laquelle c'est le peuple qui écrit les lois. C'est le peuple qui choisit les sujets et c'est le peuple qui tranche, qui décide. Non mais attends. Et ils mettent ça au milieu de la liste. Et donc, au milieu de la liste de ce qu'ils vont réclamer en disant « on a marre, on t'empête, allez, donnez-nous le RIC ». Mais ils ne se rendent pas compte. À mon avis, ils ne se sont pas rendus compte. Enfin, peut-être que ceux qui l'ont écrit se sont rendus compte, mais ceux qui sont sortis sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes, ils ne se sont pas rendus compte que dans la liste, il y avait un truc aussi important. Mais très vite, ils se sont aperçus que c'était important. Il a suffi qu'on en parle, mais attends, mais ils percutent à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est historique, ce truc-là. Ils ont fait du référendum d'initiative populaire, qui n'est pas une loi, qui est une façon d'écrire les lois, qui est l'institution même de notre souveraineté, l'institution même de la démocratie. Ils en ont fait une priorité, alors qu'ils étaient complètement bisous. Ils n'avaient jamais fait une manif de leur vie, ces gens-là. Ils n'étaient jamais sortis de chez eux. Et pourtant, ils ont fait du référendum d'initiative populaire, qui est une revendication constituante, pas législative, et qui est donc pas clivante. Il n'y a pas gauche-droite. Tout le monde, qu'il soit de gauche ou de droite ou du centre ou de rien du tout, tout le monde aspire
à cela,
à la souveraineté. Et c'est pas tout. Donc ils en ont fait une priorité. Et donc dans un premier temps, une priorité en disant on va se concentrer, on va leur demander le référendum d'initiative populaire. Et en réfléchissant, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils s'aperçoivent que on n'allait jamais leur donner, jamais. Claude, tu as raison, ils ne le donneront jamais. Comment ils se sont transformés, comment ils se sont adaptés? En décidant de l'écrire eux-mêmes. Alors là, l'objection, c'est, on est gentil, on écrit, moi je l'écris. Et ça n'a rien changé. Mais attends, ce n'est pas toi qui vas changer, c'est nous tous, il faut qu'on soit nombreux. La police et l'armée changent de camp quand on est des millions. En Algérie, leur manifestation, c'est 20 millions, c'est des dizaines de millions, c'est plus que le corps électoral.
Ouais.
Et ils sont en train de devenir constituants. Et ils vont nous doubler, S'ils deviennent constituants à 20 millions dans la rue, le régime va se transformer. Parce que l'armée va passer. Si vous voulez, vous me demandez d'avoir tout de suite ce qu'on ne peut pas avoir tout de suite parce qu'on ne s'est pas encore occupé de se multiplier.
De s'unir, tu veux dire.
Oui, multiplier. Ouais, c'est-à-dire que les gens conscients transforment les gens inconscients ou endormis, les réveillent. Mm-hmm. Mais ça va très vite si on s'en occupe tous. Ouais, ceux qui font à Saint-Clair-du-Rhône, un petit village dans la Drôme, je crois, ou près de Vienne. Saint-Clair-du-Rhône, ils se font chasser des ronds-points, puisque la police les a chassés, et ils ont réfléchi, et ils se sont dit, il faut qu'on soit nombreux, on va faire un RIC sur le RIC dans notre village, tout petit village. On va faire un RIC sur le RIC, et donc on va aller toquer à la porte des gens. Les gens, vous souvenez, à 80%, ils sont pour le RIC. Hein.
Oui.
Ça ne se voit pas, ils sont chez eux, les portes sont fermées, mais à l'intérieur, vous pouvez y aller 8 portes. Quand vous allez toquer à 8 portes sur 10, les gens ne vont pas vous claquer la porte au nez quand vous allez leur dire « Bonjour, on voudrait vous parler du référendum d'initiative citoyenne ». Ils ne vont pas claquer la porte, ça les intéresse. Mmh. Et quand vous allez leur dire la deuxième phrase, c'est ce qu'ils font à Saint-Clair-du-Rhône. Deuxième phrase, ils leur disent « Écoutez pas ce qu'on vous dit à la télé, on n'est pas violent, on est pacifique. On est en train d'instituer nous-mêmes le RIC. On est en train d'apprendre à instituer nous-mêmes le référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir dans 3 semaines, on va organiser un scrutin dans le village et on va vous demander si vous êtes d'accord, oui ou non, pour le RIC. » Tout le monde dit oui. Simplement, ils sont en train de connecter ce qu'ils veulent avec ce qui se passe dehors avec les gilets jaunes. Ils sont en train de devenir gilets jaunes. Alors, pas tout de suite, parce qu'il faut une graine, il faut que ça mette un moment à germer. Ils ne deviennent pas militants tout de suite, mais ils deviennent sympathisants. C'est-à-dire que l'image négative qui leur est donnée à la télé, où on nous présente comme des casseurs, des salauds, des antisémites, je sais quoi, des fascistes, je sais pas ce qu'ils nous disent. Au lieu d'avoir cette image-là, parce que nous sommes allés les voir et qu'on leur a dit que notre sujet de préoccupation numéro un, c'est le même que le leur, et que ça va permettre de tout changer, enfin le peuple va pouvoir décider. Mais ce travail de fourmi, ça n'est pas théorique, c'est super pratique. Et imaginez que ce qu'ils font à Saint-Clair-du-Rhône, c'est une commune parmi 36 000 communes. Imaginez que grâce à Internet, on se passe ce que je suis en train de vous dire. On se passe l'information, il faut que dans 36 000 communes, on fasse ce boulot de fourmi. Mais si dans chacune des 36 000 communes, je sais pas, on en a convaincu 10, vous faites la multiplication, vous avez déjà des centaines de milliers de personnes. Mais les inégalités de classe, elle a raison, c'est vrai qu'on est dans une société de classe, mais aujourd'hui, c'est quoi ton prénom ? Audrey. Mais Audrey, aujourd'hui, il y a une classe qui opprime l'autre, parce qu'ils ont pris le pouvoir d'écrire les lois. Comment ? Ils ont mis en place, ils nous ont volé le processus constituant, les bourgeois du 18e, ils ont dit c'est nous qui allons écrire la Constitution. Et dans la Constitution, ils ont mis en place la procédure qui leur permet ensuite toujours d'avoir le pouvoir. Et les règles qu'ils ont écrites, les règles du salariat, donc de la subordination, de la règle de l'oppression de la classe travailleuse par la classe oisive, donc l'oppression du salariat par les capitalistes, ils ont écrit le droit qui correspond à ça. Mais Ce que je dis, c'est que le référendum d'initiative populaire va permettre à la classe travailleuse de reprendre le contrôle des lois et enfin de résister à la classe oisive. Mais c'est précisément dans la lutte des classes... Mais pas du tout. Mais oui, mais le capitalisme, c'est du droit, Audrey. À mon avis, il y a plein de choses intéressantes dans le marxisme, mais il y a une énorme lacune, je trouve. Le droit est considéré comme une conséquence et les causes sont, pour les marxistes, entièrement économiques. Je pense qu'il y a sûrement une part de vrai là-dedans, mais il y a une vraie lacune parce qu'on fait comme s'il n'y avait aucun moyen d'instituer nous-mêmes une résistance juridique et politique à cette domination économique. C'est comme si les marxistes ne se rendaient pas compte que ce qui a boosté la domination des pauvres par les riches, c'est le fait que enfin, au XVIIIe siècle, ils se sont mis à avoir le droit d'écrire la loi. Avant, ils n'écrivaient pas la loi. Ils étaient dominants, oui. Ils arrivaient à exploiter par la rareté de l'argent, mais ils ne pouvaient pas exagérer à ce point parce qu'ils écrivaient les lois. Ce qui s'est passé au XVIIIe et qui a fait le capitalisme, qui est une démesure, une hubris, c'est que les grands marchands, au lieu d'être tenus à l'écart par la police du roi, sont devenus législateurs. C'est ça qui a fait le capitalisme. Mais Audrey, peut-être que tu as raison. Mais oui, mais je sais bien, Audrey. Mais peut-être que tu as tort. Je te signale que... voilà, et peut-être que j'ai tort, voilà. Mais il me semble que dans l'ensemble du panorama des idées, le marxisme est bien défendu. Il y a quand même beaucoup de gens qui défendent. Je défends une idée alternative qui n'est pas contradictoire complètement avec le marxisme. Simplement, il manque quelque chose. Dans le marxisme, il n'y a pas l'institution de la puissance populaire, donc des travailleurs, contre les riches. Il n'y a pas ça dans le marxisme. Eh bien moi, je dis, nous sommes en train de découvrir, de mettre au point un truc qui manque au marxisme. Pour moi, ce n'est pas une religion, le marxisme. On peut le dépasser, il peut manquer des idées. Et il me semble que l'Internet nous permet de nous passer le mot rapidement, suffisamment rapidement pour être tellement nombreux que l'armée va basculer quand elle va voir qu'on est très nombreux, comme à chaque fois que ça se passe dans les révolutions. Et à mon avis, la lutte des classes, enfin, la peur va changer de camp. C'est-à-dire que les oisifs, on va les mettre au boulot. Et on va beaucoup moins travailler. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des censures, on a des parasites qui prennent toute la valeur. L'expropriation de la plus-value, donc ça c'est un concept qui est parfait chez Marx. Hein. Les bourgeois, les propriétaires des moyens de production, extorquent littéralement une énorme partie de la plus-value qui a été créée par les travailleurs qui ne l'auraient pas distribuée sous forme de salaire. Bon, mais ça c'est parce qu'il y a le droit qui leur permet.
Et oui.
Mais avec le référendum d'initiative populaire, si on réfléchit, mais là, ça va être à nous d'y réfléchir, mais nous aurons le moyen, avec le RIC, de déconstruire une à une les institutions du capitalisme qui sont la personnalité morale des entreprises.
C'est ça.
C'est incroyable que les entreprises aient la personnalité morale. Les sociétés par action, c'est incroyable qu'on puisse accumuler des actions des entreprises. La responsabilité limitée, c'est tout à fait incroyable que la responsabilité des entreprises soit limitée. Il n'y a aucune raison qu'elle soit limitée. Ça devrait être celle des patrons qui est une responsabilité illimitée et ça les conduirait à faire moins de bêtises. Et chacune comme ça des institutions de la domination capitaliste pourrait être déconstruite, mais à notre initiative et avec nos référendums, si tu veux. Je vois dans le RIC, écrit par nous-mêmes, hein, je vois dans le RIC un outil anticapitaliste et antifasciste de première bourre. Entendez-moi, je ne suis pas anti-marxiste, je développe une idée qui est complémentaire, qui va permettre enfin de changer dans la lutte des classes le rapport de force, vraiment, parce que nous allons avoir le moyen de déconstruire les outils de la domination. Le salariat, c'est du droit.
Merci beaucoup Étienne, on va s'arrêter là en ce qui concerne l'interview pour l'émission de radio du Chant des Colibris. On continue nous juste après, mais voilà, t'es très riche donc merci.
Merci.
En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici. Sans dire la fin de l'incendie, l'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.